Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Dimanche, ce sera le dimanche de Pâques, donc Christ est ressuscité. Nous allons donc lire ce texte de l'Évangile. Cette année, c'est l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, « Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses.
Et la deuxième lecture du jour se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 16 et 51. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite par la main des hommes.
Thank you.
Nous allons vous parler aujourd'hui donc de la bonne nouvelle de Pâques avec un texte largement inspiré par notre ami le pasteur Louis Pernaud. Les extraits musicaux sont des extraits donc de l'oratorio de Pâques de Jean-Sébastien Bach avec, vous le reconnaîtrez, Barbara Schlick en particulier.
Donc Pâques, c'est une bonne nouvelle. Mais que peut-on en dire ? Tous les évangiles ne sont pas d'accord et les récits qui suivent la résurrection du Christ sont tous différents. Chacun raconte sa propre histoire et chaque histoire est différente. Il y a néanmoins un point sur lequel ils sont tous d'accord, tous les quatre, c'est le tombeau vide. Les femmes arrivent au tombeau le premier jour de la semaine, donc le dimanche matin, pour embaumer le corps du Christ. Et là, elles trouvent le tombeau vide. Les spécialistes de la Bible disent d'ailleurs qu'initialement, nos quatre évangiles se terminaient là et que les récits d'apparition n'auraient été ajoutés que plus tard, petit à petit, pour en rajouter en quelque sorte, et pour des raisons que nous évoquerons tout à l'heure. Et donc, si on en restait à la vraie bonne nouvelle de Pâques, qui est que le tombeau est vide. Mais un tombeau vide, est-ce une bonne nouvelle ? Un tombeau vide, c'est une absence. Jésus n'est physiquement plus présent. Le tombeau est vide, il n'y a pas de corps du Christ. Et c'est là la chose essentielle de Pâques. Mais alors, en quoi est-ce une bonne nouvelle ?
D'abord, parce que cela veut dire qu'il n'y a pas de cadavre. Non pas que le Christ ne soit pas présent. On va bien voir que Christ est ressuscité, il est vivant. Ce n'est pas la question. Oui, il est ressuscité, il est vraiment vivant. Mais il n'est pas dans le tombeau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadavre du Christ. Et cette absence de cadavre est la première phase de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est que la mort ne retient rien. Qu'est-ce qu'il y a dans un tombeau ? Rien. Il n'y a rien à voir. La mort se croyait puissante, capable de prendre Jésus. Eh bien, elle ne prend rien. Elle jette son filet, le filet se soulève et il est vide. Rien n'a été pris. La mort a tourné à vide, comme dit le psaume 124. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous avons échappé. C'est pourquoi, dans nos temples, nous aimons tant ces croix du Christ que nous mettons sans Jésus dessus, parce que justement, nous croyons dans cette bonne nouvelle de la résurrection qui est que la mort n'a rien pris et que la croix est vide. La mort ne nous prend rien d'essentiel. La mort, qu'est-ce qu'elle nous prend ? Elle prend un corps fait de cellules vieillissantes et qui finalement n'est pas la chose la plus essentielle qui soit. Toutes les vanités de la Renaissance nous le montrent. Nous sommes des corps en décomposition programmée et nous ne sommes que condamnés à la vieillesse, au pourrissement et à la mort. Mais pour le chrétien, ce n'est pas grave parce que l'essentiel n'est pas touché par la mort, ni par le vieillissement, par la déchéance physique. L'essentiel est autre. Il est de l'ordre de l'invisible, de l'ordre du spirituel. Et c'est là que le tombeau vide est si important. Il est une bonne pédagogie, nous enseignant et nous contraignant à tourner notre regard vers un essentiel qui n'est pas d'ordre matériel. Parce que l'essentiel est invisible pour les yeux, comme dit le Petit Prince, et ce qui est vraiment une affirmation évangélique. Dans un tombeau, il n'y a que du visible. Or, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont pour un temps et les invisibles sont éternelles.
Oh.
tombeau vide ne suffit pas s'il n'y a pas en plus ce cri « Christ est ressuscité ». Il est vivant, mais pas physiquement. Il est à la droite de Dieu. La bonne nouvelle, ce n'est pas simplement de dire que le tombeau est vide. Dire qu'il n'y a rien dans un cimetière pourrait être très minimaliste, voire nihiliste, comme de dire que le corps n'est rien et donc rien n'est rien. Mais justement, la résurrection du Christ nous enseigne que le Christ est présent d'une autre manière. La résurrection du Christ, elle est justement sans corps. Ou alors, s'il y a un corps, c'est vous, c'est moi, parce que vous êtes le corps du Christ, comme le dit Paul. Mais Jésus, lui, n'a plus de corps. Son corps a disparu et son corps n'est plus rien. Après, il y a un autre mode de présence, qui est un mode de présence spirituelle. Jésus est vivant spirituellement et pas corporellement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous proclamons la résurrection du Christ, qu'il vit parmi nous, mais personne n'attend à le rencontrer en chair et en os au coin de la rue.
Cependant, cette présence spirituelle n'est pas rien. C'est ce que nous enseignent les récits d'apparitions qui se trouvent dans l'Évangile. Ils nous disent que Christ, vivant spirituellement, est un Christ qui, d'une certaine manière, s'incarne dans ma vie. Ce n'est pas une présence lointaine, une sorte d'idée que les paroles du Christ sont toujours valables, c'est bien plus que cela. Christ spirituel est une présence réelle dans ma vie. Et s'il y a absence réelle du corps du Christ en tant que cadavre, que corps biologique, il y a une présence réelle d'un autre ordre parce que le Christ ressuscité s'incarne dans mon existence et dans l'existence de chacun de façon différente. Et un des grands avantages de ce nouveau mode de présence spirituelle du Christ ressuscité, c'est qu'il est libéré même des contraintes du matériel. Le matériel est limité à un lieu, à un espace, à une forme particulière. Le Christ spirituel n'a plus de limites. Et il n'est pas limité à une seule forme, mais il peut prendre une multiplicité de formes. Il peut se rendre présent de mille manières différentes.
Ainsi, voit-on au moment de la résurrection, Marie-Madeleine, dans l'évangile de Jean, qui voit le jardinier, elle dit « C'est le Christ ressuscité ». Mais c'était peut-être le jardinier. Elle découvre tout à coup que le Christ peut être présent dans les traits d'un jardinier. Et pourquoi pas ? D'autres, comme les disciples d'Emmaüs, vont découvrir que le Christ est présent dans l'ami qui chemine avec eux ou dans celui avec qui ils discutent. D'autres vont découvrir le Christ présent dans celui avec qui ils partagent un repas, le pain ou le vin, ou encore dans le plus pauvre que l'on va aider. Car Jésus a dit « J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ». Ainsi donc, le Christ va s'incarner de mille manières. Et nous avons alors la possibilité de reconnaître le Christ de beaucoup de façons différentes.
Mais cette présence spirituelle du Christ est une présence réelle, incarnée et qui est expérimentable. Ainsi pour moi, Jésus est vivant. Il m'accompagne, il est présent à mes côtés, mais à ma manière et là où je le reconnais. En tout cas, il n'y a pas un moment, pas une rencontre, un geste, un acte dans lequel Jésus ne soit pas présent. Parce que si Christ est ressuscité, alors il est présent en toutes choses et partout. Et donc à chacun de dire, moi, mon Christ ressuscité, il est là, à ma manière, vous le vôtre. Il est, je ne sais pas où, vous seul pouvez le dire, mais en tout cas, il est ressuscité pour vous, il est une réalité qui peut s'incarner dans votre propre existence. Et c'est pourquoi les récits d'apparition de Jésus dans les évangiles sont à la fois si précis, si concrets et également si différents. Parce qu'il y a à la fois une réalité de l'incarnation de cette présence spirituelle et en même temps une subjectivité fondamentale de cette présence qui se fait différente pour chacun.
C'est une des chances de ce Christ spirituel de pouvoir expérimenter un autre mode de présence. Le mode de présence corporelle est évidemment bien utile et efficace parce que c'est plus facile si je vous parle avec des mots que si j'essaye de le faire par la transmission de pensées ou la prière. Néanmoins, la présence matérielle est limitée. Je peux parler à une personne, 10 peut-être, mais pas infiniment. Jésus peut être présent en Israël, mais pas à Rome. Alors qu'une fois mort, il est encore présent, mais d'une façon infinie, et il peut être en plusieurs endroits à la fois, partout sur la terre en fait.
Et ce n'est alors pas un aveugle qu'il guérit, mais des milliers d'aveugles qu'il guérit, tous les jours, des milliers de personnes à qui Christ donne de pouvoir trouver leur chemin et de trouver un sens à leur vie. Ce n'est pas un paralytique qu'il relève, mais des milliers de paralytiques tous les jours dans le monde entier qu'il remet debout, alors qu'ils perdaient confiance en eux, qu'ils croyaient ne plus pouvoir rien faire. Et ce n'est pas un lépreux qu'il réintègre dans la société, mais des milliers d'exclus de la société qui peuvent découvrir que leur culpabilité n'est que factice, ne sert à rien, et qu'ils ont le droit de vivre et d'être réintégrés dans la société.
Et ainsi, le Christ ressuscité se présente d'une manière totalement démultipliée et infinie, alors que le Christ corporel, qui est certes utile pour initialiser le processus, était extrêmement limité. On pourrait dire que le Christ ressuscité est comme une explosion de vie, une explosion de joie, de lumière, et que le Christ vivant sur terre est comme la mèche de la dynamite. Cette mèche, elle éclaire quelques centimètres autour d'elle et elle n'est que provisoire. La vraie vérité, c'est le bâton de dynamite qui explose et qui donne une source infinie de lumière et de vie pour le monde. Mais la dynamite n'exploserait pas sans la mèche. Donc il fallait cette amorce de présence matérielle, corporelle, certes limitée et conditionnée, mais néanmoins il fallait qu'elle ait lieu pour que l'autre puisse être et exister d'une façon pleine et entière.
Mais ce vide du tombeau vide n'est pas juste un rien appelant à chercher ailleurs. Il n'est pas juste la négation de la mort. Ce vide peut avoir une consistance divine. Il est en lien avec le Saint des Saints, lieu le plus sacré du temple de Jérusalem, lieu symbolique de la présence de Dieu. Au départ, s'y trouvait l'Arche de l'Alliance avec les tables de la loi. Puis, dans le second temple, le Saint des Saints, le lieu le plus sacré, lieu même de la présence de Dieu, était une pièce absolument vide. Les Juifs avaient pensé que Dieu ne pouvait qu'être infini et que l'infinité de Dieu ne pouvait pas se réduire à se limiter à quelque chose de matériel et de visible. L'infinité de Dieu ne peut être imagée par rien, si ce n'est par le vide qui est la seule chose totalement infinie. Parce que le vide peut être habité de différentes manières. Non pas que je veuille dire que chacun puisse y mettre ce qu'il veut. Ce n'est pas le culte du Dieu inconnu, comme la flamme de l'Arc de Triomphe pour le soldat inconnu. Mais c'est pour dire que Dieu est un espace infini qui permet d'être et d'exister. Le vide est ce qui permet d'exister, c'est de la place. Et Dieu nous fait de la place, il offre de la place à sa création. La tradition juive dit que Dieu crée en se retirant de la création, pour lui laisser de l'espace. C'est pourquoi Jésus dira « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, je ne pourrais même pas prêcher. Si Jésus était là, je ne pourrais que me taire et lui laisser la parole. »
Ainsi, le tombeau vide renvoie au temple vide, lieu de la présence réelle de Dieu, irreprésentable et totalement spirituel, donc invisible. Les protestants se sont toujours méfiés des signes visibles parce que les signes visibles enferment une réalité spirituelle dans une chose finie. La présence spirituelle du Christ dépasse infiniment la présence sacramentelle. Et nous pouvons justement à Pâques expérimenter ce tombeau vide, c'est-à-dire comment cette absence matérielle, même si elle est cruelle d'une certaine façon, nous force à découvrir le Christ autrement, c'est-à-dire d'une manière plus spirituelle.
Et je suis heureux finalement que lors de l'épidémie de Covid, même à Pâques, nous ayons pu célébrer la communion à cause des problèmes sanitaires, parce que vous pouvez, même s'il y a quelque chose pour vous de douloureux et de difficile, découvrir peut-être le Christ autrement. Si nous ne faisons pas de communion rituelle, cela doit nous inviter à chercher quelque autre mode de communier et voir que le Christ peut être présent dans d'autres formes de partage. Quel partage avez-vous aujourd'hui avec vos proches, vos amis, votre famille, que ce soit un partage matériel, de temps, d'espace, de parole, d'affection, de prière? C'est dans cette communion que le Christ s'invitera. Et si vous savez discerner cette présence spirituelle du Christ aussi, alors vous en saurez infiniment plus sur le Christ ressuscité qu'en avalant un morceau de pain, en croyant que dans ce pain se trouve sa présence. Le Christ est présent infiniment dans le spirituel, et justement dans l'absence réelle, parce que le réel n'est que pour un temps, le matériel n'est que limité, alors que invisible, l'invisible est éternel, et la présence spirituelle est infiniment autre.
C'est également ce que nous faisons bien sûr dans la tradition protestante quand nous faisons des services d'action de grâce, justement. Nous ne nous lamentons pas sur un cercueil, sur un tombeau, en disant « c'est affreux ce tombeau, cette boîte en bois, pleine de morts, il y a un cadavre dedans ». Nous ne faisons pas cela parce que tout cercueil est un tombeau vide et nous aimons faire nos services d'action de grâce sans le corps. Merveille à la fois, merveille douloureuse, et nous pleurons sur le tombeau, vide, comme les femmes qui viennent au tombeau. Mais ensuite, nous savons celui que nous avons aimé n'est pas là. Pourquoi cherchez-vous ici celui qui est auprès de Dieu? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Le tombeau vide contraint les femmes à sortir du tombeau. Elles en sortent justement. Et à la place d'un cadavre, elles trouvent deux anges. À la place d'un corps mort, à la place même de celui qu'elles auraient pu espérer retrouver physiquement, matériellement, avec elles, elles découvrent deux anges, c'est-à-dire une parole. Et c'est cette parole qui nous accompagne, c'est-à-dire un contenu, un partage, une transmission qui invite à aller chercher ailleurs.
Donc ce vide, il est à la fois espace et comme une fausse piste, il nous invite à regarder ailleurs. Notre tendance, c'est d'aller chercher dans le visible. Eh bien, aller au tombeau, regardez. Regardez si Jésus est là, s'il est dans le tombeau. Allez-y. Ah, il n'y est pas. Le tombeau est vide. Où est le Seigneur? Il est ailleurs pour que vous le cherchiez ailleurs, parce que Jésus est toujours plus loin que là où nous croyons qu'il est. De même, Jésus qui apparaît aux disciples d'Emmaüs et quand ils veulent le retenir, Jésus fait mine de vouloir aller plus loin. Et au moment où ils le reconnaissent, déjà il disparaît. Parce qu'au moment où je crois saisir le Christ, il n'est déjà plus là et il est déjà plus loin, au-delà de tout ce que je pensais qu'il était, et différent.
Et Pâques est à la fois la plus belle des bonnes nouvelles parce qu'elle nous apprend que Christ est vivant, que notre Seigneur n'est pas mort, que le tombeau est vide, que la mort est inefficace, tenue en échec par celui qui est le prince de la vie. En même temps, Pâques est une des choses les plus inconfortables qui soit, parce que ça nous force à découvrir un autre mode de présence que celui que nous voudrions avoir. Comme les femmes, nous préférerions même, pratiquement, parfois avoir un cadavre sur lequel pleurer, plutôt qu'une présence spirituelle. Quelle erreur! Qu'est-ce qu'elles auraient fait de ce cadavre? Elles l'auraient embaumé et ensuite pour en faire un lieu de pèlerinage? Alors qu'aujourd'hui, Christ est présent partout et bien au-delà des lieux saints. Il n'y a plus de lieux saints depuis que le tombeau est vide. Jésus est présent là où deux ou trois sont réunis en son nom. Voilà tout. Là où il y a deux frères qui s'aiment, Jésus est présent. Là où il y a quelqu'un qui a pitié du plus pauvre, Jésus est présent. Là où il y a quelqu'un qui donne, là est la présence réelle du Christ, et non pas dans un lieu de pèlerinage ou un lieu saint.
Après, ce vide me fait du bien. Il a une sorte de force cathartique qui me force à me débarrasser de mes vieux attachements, de mes quêtes absurdes, de mes égoïsmes, de mes désirs terrestres, pour me tourner vers le céleste. Parce que les vrais trésors ne sont pas sur terre, mais ils sont dans le ciel où les voleurs ne percent ni ne dérobent, nous dit l'évangile de Matthieu. Et comme les femmes, nous devons bien comprendre cela. Où est mon Jésus ? Il est au ciel. Et le fait que Jésus tout à coup ne soit plus matériel fait qu'il ne peut plus mourir. De même que nous sommes riches de ce que nous avons donné, parce que je possède, je peux le perdre, on peut me le voler. Mais ce que j'ai donné, je ne le possède plus. Mais c'est éternellement lié à moi. De même, le Christ, vivant matériellement, peut mourir. Il peut être cloué sur une croix. Il peut souffrir de l'agonie ou de la soif. Mais le Christ ressuscité, allez le crucifier, allez le faire mourir. Essayez de le frapper avec des bâtons. Ça ne lui fera rien.
Oui, vraiment, ce tombeau vide est le lieu crucial du passage du visible à l'invisible, d'une présence corporelle à laquelle je suis nécessairement attaché, à une présence spirituelle et éternelle. Il est l'apprentissage que l'être éternel n'est pas dans l'apparence, dans le visible et dans le corporel. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui fait vivre, dit Jean. Et nous dit Jésus. Le tombeau vide de Pâques nous l'apprend de manière spectaculaire. Et c'est une bonne nouvelle pour nous tous, car nous pouvons ainsi découvrir que cette dimension spirituelle et éternelle du Christ ressuscité, il la partage avec nous.
Et il y a pour nous tous cette dimension éternelle de notre existence dont témoigne la résurrection. Vous pensiez que vos morts mouraient ? Vous pensiez que la mort pouvait vous priver de ceux que vous aimiez ? La résurrection du Christ prouve le contraire. Le Christ que j'aime de tout mon cœur, ce Jésus qui est mon meilleur ami, qui est mon frère, mon confident, mon soutien, qui est mon père, le seul qui ne puisse jamais me faire du mal, il est présent, infiniment présent parce qu'il est ressuscité. Et il me ressuscite avec lui pour vivre éternellement de la joie éternelle. Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres et que nous serons très heureux de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.